Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laure Mériot, architecte associée et présidente de l'atelier 234, et Florian Luneau, urbaniste associé de cette agence d'architecture qui figure parmi le top 15 des agences françaises au classement de la revue DA. Classement par chiffre d'affaires. C'est bien ça ?
C'est tout à fait ça.
Bonjour, tout d'abord, Laure et Florian.
Bonjour.
Bonjour.
Les ateliers 234 siègent au 234 de la rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris. Ils sont issus de l'association Arennes et Edekins, Bolz et Rodriguez-Pagès, Ma et Roux, et d'une fusion avec Faubourg 234. C'est pour ça, deux ateliers qui s'associent après 3 et après 4. C'est bien ça ?
C'est tout à fait.
Les ateliers sont orchestrés par 12 associés, pour un effectif de 120 personnes environ. Deux implantations satellites internationales, l'une à Shanghai, l'autre en Guyane. Vous travaillez sur tout type de programme. La culture du collectif est très ancrée chez vous. Elle est même partie constitutive de l'ADN de l'agence. Alors on va un tout petit peu déroger à la règle de l'agence. Je vais vous poser des questions sur votre parcours, mais on va très vite revenir au collectif. Quels ont été vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ?
Bien, merci pour ces questions. Moi, mon envie d'architecture, elle est née de façon assez soudaine, finalement. Je ne suis pas du tout issue d'un milieu d'architecte qui gravite autour du monde de la construction. J'ai, on va dire, deux pôles, comme ça, qui m'ont donné envie de faire ces études. C'est un reportage sur Arte de Roland Castro sur la création de la Défense et tous les quartiers qui étaient autour et où je me cherchais un peu. J'étais en terminale scientifique et en fait, j'avais pas envie d'être ingénieur. J'avais pas non plus envie de faire Sciences Po parce que j'avais pas non plus toutes ces compétences qu'il fallait. Et finalement, je me suis dit waouh, mais concevoir la ville, être utile socialement, faire des maths, faire de la création, finalement, c'est génial, c'est passionnant, tout type de programme, voilà. Et donc là, ça m'a vraiment donné envie. Et puis, je dirais que le deuxième petit choc, c'est un voyage au Pérou, où je suis allée au Machu Picchu, à peu près à la même époque, hein, en terminale, et où, face à ces ruines, qui sont finalement pas des ruines, au milieu de la nature, l'ancrage de la civilisation par les bâtiments. Finalement, comment on connaît une civilisation par ce qu'elle a construit. Je pense que, voilà, je me suis dit, bon, bah, je crois que j'ai trouvé. Et voilà, j'ai fait mes études à Charenton. Et donc, j'ai un diplôme de Paris-Val-de-Seine, puisque les écoles se sont regroupées. Et puis, j'ai eu un parcours assez classique, avec quand même une année d'études à Manchester, une ouverture déjà sur un peu l'international. J'ai fait des stages pas mal aux États-Unis, donc une envie aussi, une certaine curiosité sur les différentes façons de concevoir. Et puis après, j'ai eu fait quelques expériences professionnelles dans des agences et je suis arrivée aux ateliers 234 en 2003.
Et l'empreinte de Siriani, parce que je crois que c'est très important chez vous.
Alors, pour moi, pas trop, je dirais. C'est ce qui fait un peu peut-être ma particularité, mais aussi la particularité, je pense, des nouveaux associés. C'est-à-dire que on n'est pas arrivé obligatoirement par des études qui sont les mêmes que celles de nos associés fondateurs, qui, eux, avaient vraiment créé un groupe pendant leurs études.
Dans le prolongement de Uno.
Anne Rouzet a eu un enseignement de Siriani, mais moi pas du tout. Donc en fait, je l'ai découvert avec les associés fondateurs et la transmission de ces valeurs qui ont construit mon parcours professionnel, finalement, plutôt que étudiant.
D'accord. Et à l'intérieur de l'agence, vous avez grimpé très rapidement ?
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des grands projets comme la base de maintenance de la 380 ou des projets un petit peu importants et effectivement qui m'ont permis de développer des compétences assez rapidement et d'avoir la confiance des associés fondateurs. Donc effectivement, parce que le chantier de la 380 que j'ai mené, j'avais 30 ans. Et puis après, voilà, une certaine envie de faire et de participer très forte.
Bon. Florian ?
Oui, alors moi, du coup, c'est un petit peu pareil que Laure, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout issu d'une famille du sérail. C'est un métier dans lequel il y a quand même beaucoup de filiation familiale et pas pour moi. Moi, j'ai commencé par le paysage. Du coup, je suis vraiment aujourd'hui, enfin, en tout cas, je me définis comme urbaniste paysagiste ou paysagiste urbaniste. Je me suis cherché, mais toujours dans une dimension très urbaine et paysagère. J'ai par exemple les stages de collège qu'on faisait au collège en troisième. J'ai fait mes stages chez des paysagistes. Alors c'était à l'époque, c'était plus des jardiniers que des paysagistes. Le métier s'est quand même bien transformé ces 25 dernières années. Et puis après, c'est des rencontres beaucoup liées quand même à des amis de mes parents qui étaient paysagistes, dont un voyage au Canada et dans les Grands Lacs, voilà, sur cette question de la nature, avec un intérêt, on va dire, qui s'est vraiment confirmé sur cette interaction et qui est toujours très vivant pour moi sur la ville et la nature, enfin, qui a toujours été très présent. Avec un démarrage, bon, enfin, des études, on va dire, scolaires classiques, pareil, terminale scientifique. Bon, mes parents, je pense qu'auraient bien aimé que je fasse des prépas ou des choses comme ça. Et puis, finalement, j'ai fait un BTS aménagement paysager, avec leur bénédiction aussi, puisqu'ils savaient que finalement, voilà, c'était mon sujet, que j'avais vraiment trouvé ce qui me plaisait, et je suis resté dans cette dimension. Alors le BTS, très intéressant, puisqu'il y a quand même un peu la question des... C'est quand même des métiers où il y a la question du mentor, ou en tout cas, de, voilà, des guides. On parlait de Siriani pour les fondateurs. C'est vrai qu'en paysage, il y en a moins. Et à l'époque, il y avait un professeur, Sacha Horvitch, qui est décédé depuis. Gilles Clément, voilà, c'est vraiment deux figures, en tout cas, qui m'ont un petit peu accompagné dans mon éducation paysagère et de projet. Et puis, je me suis ensuite... la question du paysage m'intéressait, puis je me suis voilà, dirigé aussi sur la question urbaine, avec un magistère urbain. À la sortie d'école, on a créé une revue avec des amis qui s'appelait La Revue Urbaine. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a eu le palmarès des jeunes urbanistes en 2007, où c'était une revue voilà, sur la ville européenne, basée sur le réseau étudiant Erasmus. Et j'avais, moi, depuis longtemps, depuis mes 20 ans, monté ma structure en fait, de paysage, qui était une structure, on va dire, vraiment conception-réalisation, où voilà, je faisais des projets, alors plutôt, on va dire, de luxe, parce que les gens, en général, qui appellent des paysagistes, c'est qu'ils ont les moyens, voilà, de dessiner des terrasses, des jardins. J'avais de la chance d'être dans une famille avec une maman professeur dans une école privée, donc du coup beaucoup de réseaux de personnes voilà, qui m'ont envoyé jusqu'aux États-Unis où j'ai fait plusieurs jardins, notamment à Washington. Ce qui est assez génial quand vous rentrez quand même dans le privé, c'est que vous rentrez facilement dans des réseaux, dans des diasporas, voilà, vous développez des choses assez intéressantes. Et puis 2-3-4 est arrivé un peu par hasard, c'était pas vraiment mon objectif, hein, pour être tout à fait honnête. J'avais déjà à peu près tout tracé, j'avais rencontré très bonnes amies architectes pour s'associer et créer notre agence. En gros, c'était ça l'objectif. Mais c'était quand même à plusieurs. Et puis, bah, un jour, voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, ah bah tiens, je faisais un peu en freelance, voilà, et tiens, il y a quelqu'un qui cherche là chez Atelier 3-4. Et donc, c'était Faubourg de 3-4 à l'époque, en urbanisme. Et donc, Arnaud De Villers qui dirigeait Faubourg de 3-4 à l'époque et qui, du coup, m'a embauché en 2008. Et donc, c'était mon premier emploi, et on va dire dernier, en tout cas pour l'instant, puisque j'y suis resté depuis, avec la chance d'avoir tout de suite une connexion quand même très très forte, on va pas se mentir, avec Arnaud De Villers, mais aussi avec tout de suite rapidement les associés hein, d'Atelier 3-4, les fondateurs, où voilà, une espèce de culture commune, cette question justement du groupe, de la transversalité, qui m'a tout de suite beaucoup intéressé, passionné. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, je me rappelle très bien d'une discussion avec Arnaud, du coup, on m'expliquait, voilà, parce qu'en fait, au bout de 6 mois, quand je suis arrivé, j'ai dit, non, mais bon, moi, je vais partir dans 6 mois, je vais m'en aller, enfin, voilà, là, je suis là juste un petit peu. Et puis, finalement, voilà, au bout d'un an, je me suis dit, mais en fait, ce que je veux fonder ailleurs, je peux le fonder ici, avec des gens qui ont beaucoup de choses à m'apporter. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était quand même cette culture, on en reparlera, mais très forte de la transversalité, avec vraiment tout de suite un objectif d'être dans l'architecture, l'urbanisme et le paysage, qui m'a beaucoup séduit. Voilà.
Et justement, cette dimension territoriale et transdisciplinaire, chez 2-3-4, ça existait déjà depuis longtemps ?
Bah, oui, puisque finalement, Faubourg de 3-4, c'est aussi l'émanation de Atelier 3-4, enfin, en tout cas des trois ateliers des fondateurs, puisqu'ils étaient actionnaires principaux. C'est eux qui ont monté cette structure-là avec Arnaud. Et donc, il y avait vraiment cette volonté dès le départ de pouvoir allier l'urbanisme, le paysage et l'architecture, de créer la ville et d'avoir des synergies entre les différentes disciplines. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous habite totalement et qu'on ne conçoit pas nos bâtiments sans regarder ce qu'il y a autour. Enfin voilà, il y a vraiment cette question d'interaction et de pouvoir l'avoir au sein de l'agence, parce que ça fait assez longtemps, hein, ça fait plus de 15 ans qu'on est comme ça, puisque Faubourg était quand même dans l'agence.
Donc l'histoire, c'est que Faubourg de 3-4 a été créé avant Atelier de 3-4.
Ouais. En fait. Oui. Mais finalement, c'était un positionnement assez visionnaire, parce qu'aujourd'hui, le paysage, l'urbanisme et l'architecture sont vraiment imbriqués de plus en plus fortement. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a.
Non, mais effectivement, je pense que pour plusieurs choses, hein, nos associés fondateurs ont été assez visionnaires, hein, que ce soit sur la question de la transmission, la question de justement créer un groupe qui puisse interagir, trouver des individualités assez fortes, mais qui sont dans le dialogue. C'est-à-dire que, ben voilà, on est 12, on a 120 salariés, et on travaille tous ensemble. Et donc, ça demande une vraie capacité au dialogue, à l'écoute, de trouver des lignes et de se nourrir, finalement, des connaissances et des expertises de chacun pour pouvoir faire un projet plus riche et qui ne soit pas répétitif. On a à l'agence, on travaille sur plein de sujets, plein de typologies de projets, mais aussi beaucoup de tailles différentes. Et c'est vraiment une volonté, c'est pas évident, parce que finalement, c'est beaucoup plus simple de dire, bah, je suis spécialisée là-dedans. Je sais pas, par exemple, dans l'hospitalier, je fais que de l'hospitalier ou que du scolaire. Et je fais que du scolaire. Et donc, voilà, on a l'étiquette, les gens nous appellent, c'est assez simple. Nous, on a vraiment la volonté de faire la ville. Et c'est vrai que sur les projets, en fait, c'est leur inscription, finalement, dans l'urbanité qui est importante, plus que l'objet en lui-même, je dirais.
Oui, c'est votre fil conducteur.
Totalement.
Oui. Ouais. Et donc sur l'humain, en effet, vous parliez de transmission, c'est vraiment très important et là aussi pionnier d'avoir des architectes qui appartenaient quand même à une génération où le nom était très important. Les nouvelles, les villes mottes, les... Et eux ont été les premiers, ils le revendiquent, à dire, eh bien nous on veut transmettre et on veut que notre... même juridiquement, je crois qu'il y a, ça a été...
Ils ont effacé leur nom très vite.
Ouais.
Et ça c'est important parce que c'est vrai que c'est pas des acronymes, après il y en a qui font des acronymes, des choses comme ça, et finalement... pour nous, c'est beaucoup plus facile. Et ça sera beaucoup plus facile aussi pour les suivants. Parce que quand vous avez des agences qui s'appellent Truc et Associés, bah, Truc, oui. Il existe toujours, en fait. Mmh. Et donc, du coup, là, ce qui est important, c'est que tout de suite, et dès le départ, dès la fondation en fait, de l'agence, ce nom a disparu. Mmh.
Finalement, c'est une méthode.
Oui.
C'est ça.
Mmh. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?
Alors, à la sortie de l'école, je ne sais pas, je suis sortie en 2001, je cherchais déjà du travail, qui n'était pas obligatoirement évident. Non, en tout cas, ce que j'ai accompli, je dirais aujourd'hui, c'est que je suis épanouie dans ce que je fais. J'ai accompli le fait que je ne voulais pas faire de tâches répétitives et pouvoir nourrir à la fois mes réflexions et ma curiosité. Et ça, bah, tous les jours, c'est le cas. Et accompli aussi le fait de faire de l'architecture et ou de la ville avec un souci du bien public. Mmh. Il y a une chose qui est importante aussi à l'agence et dont on n'a pas parlé, c'est que pratiquement tous les associés sont engagés dans des organisations autres que l'agence, à l'ordre, en tant qu'architecte conseil de l'État, professeur, pour faire rayonner finalement notre métier et aussi parce que je pense que notre engagement, il est au-delà de juste faire des projets. C'est vraiment un engagement, on va dire, sociétal et de pensée. Et ça, c'était très important aussi pour moi.
Florian ?
Alors, moi, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu de sortie d'école. Non pas que j'y sois resté, mais... Je dirais que dès le lycée déjà, j'aimais beaucoup le lycée et j'ai jamais vraiment eu l'impression d'être à l'école. Et puis après le bac, finalement, j'ai commencé ce BTS, monté une petite structure là, avec un copain pour faire les jardins. Et ce qui était très important, c'est que pour moi, il y avait une espèce de mixité comme ça, d'apprentissage et du faire, voilà, sur quelque chose qui me passionne toujours, qui est la question un peu de la nature qui est mouvante, c'est comment essayer de travailler ces choses qui se déplacent, qui évoluent. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à partir de 19 ans, en gros, j'avais l'impression d'être pleinement dans mon monde. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment eu non plus de vision en me disant, bah, tiens, allez, à 35, je ferai ci, je ferai ça. Et voilà, et même pendant les études, en montant la revue européenne, on allait chercher des subventions à Bruxelles, tout en allant aux cours, pas forcément beaucoup, on ne va pas se le cacher. Et tous ces échanges-là m'ont beaucoup passionné. La personne dont je parlais tout à l'heure, Sacha Horvitch, avec qui j'ai passé énormément de temps, à préparer des sujets, de projets, etc. On est quand même un peu les deux pieds dans le monde où on a envie d'être. Et ce qui est aujourd'hui, je dirais, quand on est en réunion avec les associés ou quand on parle avec Laure et les autres de projets, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué, en tout cas sur cette question-là, et d'être toujours pleinement comblé par cette position professionnelle, ça, c'est certain.
Oui, vous ne courez pas... après quelque chose.
Non, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que des fois on me pose la question, parce que les gens sont très attachés à la question de l'âge, et disons, donc t'es jeune, t'es associé. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est pas ça, je trouve ça très bien, j'en suis très fier et très heureux, mais c'est pas quelque chose où je me disais, il faut absolument qu'à 40 ans, je sois associé ou que je fasse telle ou telle chose ou tel projet. C'est pareil pour les projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de faire des beaux projets, effectivement, qui comptent pour la question du monde, la question sociale, la question humaine. J'ai de la chance, je pense, et alors, je pense que c'est quelque chose qu'on partage chez les associés, je mets un peu les autres avec moi, c'est qu'on a un plaisir à travailler en commun sans être sur quelque chose, pour moi, qui est fondamental. On n'a pas besoin d'avoir une reconnaissance perpétuelle. Tout le monde a besoin d'un peu de reconnaissance, c'est normal, mais ce n'est pas notre quête profonde. Je pense que ça, c'est vraiment un élément fondamental au sein d'Atelier 2-3-4 qui doit perdurer d'ailleurs au-delà de nous.
Alors, j'avais écrit un petit papier sur vous, il y a 2 ans à peu près. Et à ce moment-là, on avait défini vos références emblématiques. Alors, le projet fondateur dont vous parliez lors tout à l'heure, le hangar A380. Ensuite, le palais de justice de Béziers, Et enfin, le lycée international de Noisy-le-Grand. Alors, est-ce que vous pouvez développer sur l'histoire de vos projets ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que sur l'histoire des projets, on fait beaucoup de projets. Et citer 3-4 projets comme ça, qui seraient emblématiques de l'agence, en fait, l'idée, ce qu'on voudrait faire, c'est parler à travers une question qu'on a déjà évoquée, hein, qui est la question de comment on se projette de façon transversale dans les projets et dans la ville, comment des projets peuvent illustrer finalement une pensée un peu plus au-dessus juste de la fabrication ou de l'objet lui-même. On a 3 thèmes comme ça qui nous habitent aujourd'hui, qui sont la ville comme milieu d'échange et la ville perméable, et puis la ville qui se refait sur elle-même, le recyclage, et la ville durable, évidemment, puisque c'est un sujet qui nous habite. Et c'est vrai que les 3 projets que vous avez cités, 2, on y a pensé en développant ces thèmes-là, ce sont des thèmes qui ne sont pas des thèmes nouveaux. Ce sont des thèmes qu'on nomme aujourd'hui, qu'on explique, mais qui sont issus d'une pensée qui est celle des associés fondateurs et la nôtre, et nous, on rajoute la nôtre à l'intérieur. Et donc, si on parle de la question de la ville perméable, et Florian, tu vas peut-être commencer.
Ce qui est bien, en tout cas, Château et 3-4, ce qu'on aime bien, c'est sur cette question de perméabilité, c'est de commencer par la question de la nature. Et ça a toujours commencé comme ça, puisque la question de la nature en ville et la question du paysage au sein de 3-4, elle est finalement très importante et fondatrice de beaucoup de choses et fondatrice de projets. Et du coup, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, au sein l'atelier de 3-4, il y a une structure paysage qui fait tous les projets paysages des bâtiments de 3-4. Ce n'est pas une économie d'échelle, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'allier vraiment la conception d'un bâtiment et cette conception de la nature sur ce bâtiment, dans ce bâtiment, à côté de ce bâtiment. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment ce travail en commun qui est fabriqué et une espèce de science sur cette alliance bâtiment et paysage, bâtiment et nature en ville. Le lycée que vous avez cité, par exemple, en est un très bel exemple, puisque vous avez un bâtiment qui est totalement en interaction avec son paysage. Et nous, on pense, en tout cas, on croit que c'est vraiment parce que ça a été justement conçu en commun, en interne, que ça fabrique ces qualités-là.
Ensuite, si on développe un petit peu cette question-là, parce que la perméabilité, évidemment, on pense tout de suite au sol, à la pluie et tout ça, mais c'est plus que ça. Parce que la perméabilité, c'est aussi la question de la porosité et de comment le bâtiment interagit avec sa situation. Et là-dessus, en gros, les questions qu'on se pose quand on conçoit nos bâtiments, c'est quelle posture on va avoir. Sur le lycée de Noisy, on a une grande transparence des rez-de-chaussée et tout ça, qui fait que le bâtiment finalement s'ouvre totalement sur son paysage parce que le paysage est un paysage à voir. Mais par exemple, on peut avoir une posture qui est différente quand on a un environnement qui est un peu plus aride, des fonctionnalités qui demandent un peu plus d'être plus renfermé, et notamment le palais de justice, donc, qui est un très très bel exemple de la création d'un monde intérieur qui permet à chaque fois qu'on est dans le bâtiment, de toujours avoir une vue sur un élément de jardin, d'extérieur, de voir le ciel, alors qu'on est protégé dans une enceinte. Et ça, c'est vraiment très intéressant, cette porosité et cette perméabilité du bâtiment vis-à-vis de son extérieur. On l'a aussi dans des grands ensembles, des grands projets qu'on peut faire sur la question de la fragmentation du bâti. On fait des ensembles. À Asnières, on a fait un ensemble de 24 000 m² de logements avec 2 tours qui vont à 50 mètres sur un socle commercial. Donc, comme ça, quand on annonce les chiffres, bon, ça fait peut-être un peu peur. Mais vraiment, il y a eu tout un travail avec Jean Masse et notre directrice du pôle logement, Gabrielle Majesté, pour mettre les bâtiments, créer des failles, laisser entreapercevoir le cœur d'îlot depuis la rue. Et ça, c'est vraiment un travail fin qu'on fait à chaque fois. Et on croit vraiment que la densité qui est créée en ville aujourd'hui, elle est soutenable et elle est acceptable et même désirable à partir du moment où on crée ces vides. On les met en scène d'un point de vue urbain.
Et pour finir, puisqu'il y a une dimension, on va dire, territoire sur cette question de perméabilité qui, finalement aussi, la perméabilité, c'est la question du lien. Qu'est-ce qui fabrique lien sur un territoire? Qu'est-ce qui fait lien? Lien, en fait, c'est l'humain. On parle beaucoup des usages. Pourquoi on parle des usages? Parce que l'humain, enfin nous, c'est nous, on traverse tous ces territoires. On est en ville, on est au seuil de sa porte, on est dans sa chambre, enfin on est dans le bâtiment, à l'extérieur des bâtiments, etc. Et ça, c'est un élément très important puisque on vient vraiment travailler ce maillage, ce lien, en permanence pour chaque bâtiment, chaque projet, aussi petit, indépendant soit-il, il fait partie d'un ensemble qui doit être connecté. Et ça, c'est un élément important parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une thématique qui revient beaucoup, hein, mais qui n'était pas il y a 20 ans où on était plutôt sur des questions de juxtaposition. Et cette question-là de lien, de perméabilité, de comment comprendre ces personnes qui passent finalement de son lit jusqu'à son bureau en traversant tout un tas d'espaces, ayant ces sensations autour et de pouvoir concevoir ensemble cet ensemble, ça, c'est pour nous assez passionnant, en tout cas au jour le jour, sur chaque projet.
Vous avez gagné le concours du Centre aquatique des Géo. Il en est où, ce projet? Ça y est, il se réalise. Alors, la passerelle, est-ce que ça va voir le jour?
Je vous invite à aller prendre la 1,
ouais.
Et, ou la 86 d'ailleurs.
Ouais.
Oui, le projet se réalise. Aujourd'hui, la passerelle est en construction. Elle sera mise en place cet été, au mois d'août. Et puis là, cette semaine, lundi, sont arrivés les premiers poteaux en bois du cocon qui est fait à l'Olympique. Et ça y est, le projet vraiment prend forme. C'est une très très belle aventure pour nous. Un grand concours international, de très beaux concurrents. Vraiment un an et demi de concours ardu pour arriver à remporter ce projet. Mais je pense que ce projet, il est emblématique de deux choses qui sont fortes pour nous. C'est un, la question de la collaboration, puisqu'on fait ce projet avec une agence hollandaise, et particulièrement avec une de Van Oven CS, et avec une de leurs associées, Cécilia Gross, qui est française, que j'avais rencontrée avant, et on avait décidé dès le départ de concevoir ce projet ensemble. L'idée, c'était pas qu'il y ait une agence qui soit concepteur et puis l'autre maître d'œuvre d'exé. C'était vraiment de trouver ensemble la manière de concevoir un projet avec deux cultures, deux façons de faire, et comment on pouvait se nourrir les uns les autres et nourrir surtout le projet. Et ça a été une grande réussite. Cécilia est aujourd'hui une amie, et nos équipes ont réussi à travailler ensemble aussi. Alors on a été un peu aidés par le Covid, puisqu'on a gagné le projet en mars 2020. Donc on l'a fêté devant nos ordinateurs. Mais finalement, ce qui était bien, c'est que voilà, il y avait une dizaine de personnes chez Cécilia qui travaillaient et une dizaine chez nous. Et au final, qu'ils soient à Paris ou à Amsterdam, c'était la même chose puisqu'ils étaient tous chez eux devant leur ordinateur. Donc ils avaient pris une routine comme ça de travailler à distance et de vraiment créer une équipe ensemble pour concevoir le projet. Et puis dans ce projet, on a été porté par les ambitions de la métropole et de Paris 2024, et l'héritage.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un projet qui est évidemment, on en parle beaucoup pour son côté olympique, mais nous, on a conçu le projet d'abord par l'héritage, et ensuite, comment ce projet peut accueillir des compétitions olympiques. Et c'était vraiment important parce que c'est la première pierre d'un quartier, d'un éco-quartier, la plaine Saunier, et donc l'idée, c'était de donner un élan. Alors il y avait l'élan des Jeux Olympiques qui nous portait sur toute la question de la durabilité, on va dire l'exemplarité sur plein de choses, l'énergie et les matériaux. Et d'ailleurs on est très fiers parce que Florian pourra en parler, mais on a créé aussi 2, 3, 4 fait tous les espaces extérieurs et toute la question du paysage sur ce projet, qui est très importante, puisque vraiment notre question, c'était de compacter le bâtiment pour qu'on laisse le maximum de pleine terre, de créer vraiment un endroit désirable au milieu d'un fleuve autoroutier, et donc d'être un peu l'antithèse du Stade de France. Alors on n'est pas du tout à la même échelle, donc on ne va pas...
En même temps, il y avait justement une question de porosité entre les deux.
Totalement, avec la passerelle et ce lien. mais on va planter un arbre sur le parvis du Stade de France, et ça c'était c'est une chose dont on est très fiers. C'est pas, quand on le fera là, je pense que on sera vraiment là, mais voilà, c'est donner un élan, et c'est une très très belle aventure aujourd'hui avec tous nos partenaires qui se réalise bien. On est dans les temps.
Oui, parce que c'était aussi une grosse question, la temporalité.
Ouais. Aujourd'hui, on est dans les temps. Je dirais que le Covid a compliqué, évidemment, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la situation en Ukraine, tragique, pose évidemment des questions. Mais voilà, le projet est plus fort, donc on va y arriver. Et on avait pris finalement les devants pour des questions de planning qui font que on est un petit peu épargné.
Alors, au sujet de vos projets, vous vouliez aborder les autres thèmes, peut-être ?
Totalement, oui. Ouais. c'est gentil. Non, la question importante et qui est un peu inscrite depuis longtemps dans l'agence, c'est la question de la transformation et du recyclage de la ville. On a créé il y a 3 ans un atelier qu'on appelle Cycle Recycle, où finalement les architectes, les urbanistes pensent de façon globale cette question de recyclage et comment on peut, ça nous permet d'avoir des petits temps un peu de réflexion en dehors de la production même, de se nourrir de ce qu'on fait et de nourrir ce qu'on fait.
Mais ce qui veut dire que vous concevez du neuf qui peut être recyclé, ou est-ce que vous injectez déjà du recyclage, ou les deux?
Alors, c'est les deux. Alors, déjà, une première question qui est, puisqu'on intervient sur l'échelle du territoire et de la ville, une position quasi politique qui est-ce qu'on fait de l'extension de ville, enfin, est-ce qu'on construit sur des champs? C'est vrai que aujourd'hui, en urbanisme, par exemple, on fabrique pas. C'est pas notre truc. On sait pas trop faire ça. Mmh. Alors, on n'est plus trop dans l'époque des villes nouvelles, etc., des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur la ville, à travers des projets, anciennement ZAC, aujourd'hui éco-quartier, enfin globalement morceaux de ville qu'on fabrique depuis 15 ans, ce sont exclusivement des recyclages fonciers sur souvent, il y a 20 ans c'était des sites industriels, donc c'est des grandes usines qui partaient et donc qui se transforment en quartier vivant. Pour nous, le futur grand enjeu de recyclage foncier se situe sur la question commerciale. Toutes ces grandes surfaces commerciales qui ont essaimé à partir des années 60-70 aux périphéries des villes se sont fait petit à petit enserrer par ce développement urbain. Aujourd'hui, c'est quand même des fonciers énormes avec, on sait bien, souvent des bâtiments peu qualitatifs, des nappes de parking qui prennent une place hallucinante, totalement arides et imperméables. Et donc, du coup, il y a un véritable objectif à recycler ces fonciers-là. Donc, ça commence vraiment par ce sujet-là. Et puis, ensuite, on arrive à la question du bâtiment.
Et c'est vrai que sur la question du bâtiment, aujourd'hui, on a en gros 80% sur le tertiaire, par exemple, de nos opérations qui sont de la restructuration lourde. Ça fait 15 ans qu'on fait ça, puisque rue du Louvre, l'ancien bâtiment du Figaro, on l'a restructuré il y a plus de 10 ans. Donc on a une vraie connaissance là-dessus, une expertise. Et donc on a, on va dire, beaucoup de bâtiments, beaucoup de projets qui sont transformés du bureau en bureau. Comment redonner envie d'aller au bureau, comment changer les usages, avec des projets assez réussis de notre point de vue, et en tout cas et de leurs usagers, mais qui sont comme Cosmo ou les projets Ampère à la Défense. On restructure aujourd'hui une tour à la Défense totalement. Et puis, ce qui se pose à nous aussi, c'est toute la restructuration de bureaux en logement. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réalisation de ces projets-là, mais on a un projet, on a beaucoup d'études. La question aujourd'hui, on va dire, architecturale et de morphologie, on sait la gérer. Toute la question, on va dire, financière est un peu plus complexe. Donc on a beaucoup d'études qui sont en attente de trouver une solution à ces choses-là. Et puis, donc ça, c'est vraiment, on va dire, beaucoup de recyclage sur des bâtiments existants. Ce qui nous a appris aussi à concevoir différemment. Alors, nos associés fondateurs avaient ce credo, déjà, de la question structurelle, de la répétitivité qui permet d'avoir une certaine flexibilité dans ce qu'on construit. Mais c'est vrai que, en restructurant, on voit bien qu'il y a des choses qui se restructurent très vite, très bien, qui ont un vrai potentiel, et puis d'autres où ça devient très compliqué. Je dirais que le bâti des années 90 est un bâti un peu plus complexe à restructurer. Mais on a une volonté à l'agence qui est de dire qu'aujourd'hui, finalement, le bureau, on n'a plus besoin d'en construire du neuf. Donc, on a encore des bureaux neufs en construction, des projets. On connaît le temps des projets qui sont très longs, 5, 6, 10 ans. Mais notre objectif, c'est que dans les 10 prochaines années, on soit plutôt que sur de la restructuration sur ces sujets-là. Et puis, toute la question qui nous intéresse, c'est effectivement de transformer les usages à partir de ce qui existe déjà. Et on a gagné, là, en janvier, un très très beau concours international sur le campus de l'ESCP à Paris, avenue de la République. Et là, on va dire que c'est un challenge énorme, mais qui est passionnant, qui est en fait le bâti de cette école. Il était constitué de bâtiments historiques 1900. Et puis, on a des bâtiments de 1950, un bâtiment de 1970, des petites scories comme ça qui arrivaient dans les années 80. Donc, il s'est constitué un peu comme ça de plein de bouts de bâtiments qui n'ont pas tous les mêmes niveaux de dalles. Enfin, bon, voilà. Et l'ambition de l'ESCP, c'est d'en faire, de rester dans Paris. Donc, déjà, il y a une vraie volonté du maître d'ouvrage qui est très forte, d'augmenter la capacité du site. Donc, on passe en gros de 19 000 m² à 25 000 m², donc densifié. Pour autant, on a un espace vert protégé qu'on conserve. Et vraiment, ce qu'on a créé, c'est à la fois de nouveaux lieux amples, d'usages différents, mais surtout de retravailler toute la structuration des parcours pour donner une vision de campus et une lisibilité totale au bâtiment. On n'a pas démoli. On a recréé finalement des lieux et c'est vraiment une grande réussite, en tout cas pour l'instant, le grand challenge qui nous attend dans les 3 prochaines années.
Bon. Dans cette question de recyclage, il y a un élément qui est quand même fondamental, qui est la question de l'économie de matière, qui est aujourd'hui très à la mode sur la question carbone, qu'il était moins il y a 10 ans. Mais ce qui est intéressant, si on regarde à une échelle un petit peu plus large de l'évolution urbaine de l'humanité, on va dire... presque dire que le XXe siècle était peut-être une anomalie par rapport à cette question d'économie de matière, où finalement, avec la révolution industrielle, d'un seul coup, la question de la matière n'était plus une question. Enfin, c'est-à-dire on pouvait émettre une énergie folle.
Débauche de matière.
Voilà, c'était vraiment une espèce de débauche de matière. Mais en gros, avant 1850, tout était pensé et construit sur la question urbaine avec une intelligence de cette économie de matière, de recyclage des matériaux.
Une idée de pérennité.
Une idée de pérennité, ouais. Voilà comment
on centre... historique.
Exactement. Mm-hmm. Et qui, je pense, peut-être finalement revient à une espèce de normalité qui nous intéresse justement par rapport à cette question du recyclage, puisqu'il y a des choses très évidentes. Je ne sais pas, je parlais tout à l'heure de recyclage de dalles industrielles. Bon, voilà, on essaye de fabriquer des quartiers, des éco-quartiers où, globalement, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un gramme de matière qui sorte de ce quartier, qui peut être recyclé, concassé, mis sous les voiries, réduit en copeaux si c'est de matière végétale, du bois, etc. Et comment on essaye vraiment d'intégrer cette dimension du recyclage dans la notion de conception, dans toute la transversalité que 2-3-4 fabrique, jusqu'à la conception, par exemple, d'aménagement intérieur, puisqu'on est aussi sur l'architecture d'intérieur. Et aujourd'hui, on travaille, par exemple, sur un projet de l'Académie de l'OMS à Lyon, où tout l'aménagement intérieur est travaillé avec cette question du recyclage, de l'économie de matière, bois très local ou hyper local, moins d'un kilomètre. Enfin, comment on fabrique ça? Comment on limite les déplacements? Par exemple, il y a les mobiliers, des bureaux alentours qui sont abandonnés, on va dire, et mis au rebut. Enfin, c'est assez rigolo. Du coup, c'est un travail, c'est de regarder les bureaux qui sont pas trop loin. Qu'est-ce qu'il y a comme mobilier, qui est désaffecté, mis au rebut, et comment le réintégrer comment le réparer, le retrouver une conception commune au sein de l'académie. Mmh. Et donc, du coup, voilà toute cette question de carbone qui est quand même intégrée à cette notion de conception. En travaillant, je reviens un peu sur la question collaborative, mais là, par exemple, avec Samir Yo, qui est un designer international, et donc, du coup, en travaillant avec lui, voilà, et comment on essaye de recréer de la valeur à travers des usages, tout en ayant cette notion vraiment d'économie de matière. Il y a, je dirais, 10 ans, les fondateurs, c'était la frugalité. C'était ouais. Leur grand credo, c'était la question de la frugalité. Bon, la frugalité, c'est passé aussi, c'est Madec. Puis aujourd'hui, c'est un tout petit peu étriqué, on va dire. Ça fait un petit peu, il y a beaucoup de gens qui ne l'emploient plus, puisque ça fait un peu aride. Mais en vrai, c'est la même notion. C'est un peu la même notion. C'est comment on fait du plus avec du moins ou du moins de débauche de matière possible.
Vous travaillez avec des ressourceries ?
Oui, ouais. Sur certains projets, on travaille avec des ressourceries. Moi, ça fait 2 ans, en gros, qu'on est très actifs là-dessus. Évidemment, à l'occasion de projets. Là, on a un projet de bureau à Malakoff, qui est un projet neuf, mais bas carbone, et où on a beaucoup travaillé sur la question du recyclage. On envisage même de prendre des moquettes recyclées. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont en train de se faire. On fait quand même des projets qui ont une certaine importance en taille, qui prennent un peu de temps. Et puis, pour faire changer les choses, c'est toujours un peu long. Oui. Mais nos maîtres d'ouvrage commencent à être vraiment actifs là-dessus. Oui. Un petit exemple, dans le centre aquatique, on recycle des bouchons. Donc en fait, il y a une collecte de bouchons qui est faite sur le territoire et à l'agence. D'ailleurs, si des gens passent à l'agence, ils peuvent prendre leurs bouchons. Et en fait, on va fabriquer tous les sièges des tribunes avec ces bouchons. C'est des bouchons en plastique. Ah oui. Et voilà. Et donc, il y a cette association et on travaille avec... mais c'est ça, ce minimum, le nom.
L'opérateur.
Qui font des plans de travail. Et là, on a travaillé avec eux pour faire les sièges de la piscine. Donc, il y a quand même 2500 sièges, donc on peut y aller.
Ouais.
N'hésitez pas à venir nous voir avec vos bouchons.
Grand appel.
Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une démarche qu'on a sur tous nos projets.
D'accord. Vous vouliez peut-être conclure sur ces thèmes ?
Alors, on peut faire un petit début de conclusion, je ne sais pas si ça serait l'heure peut-être à la fin. Non, sur un élément qu'on n'a pas abordé, qui est important évidemment, qui est la question de la ville durable et de la durabilité, et de l'exposition de la ville, du milieu urbain, au changement climatique. Et je prends l'exemple là, tout le travail qu'on mène en Guyane, qui est assez intéressant puisque la Guyane est un territoire qui est très impacté par le changement climatique.
Qui est déjà extrême à la base.
Qui est déjà extrême à la base. Et bon, comme tout le monde le sait, malheureusement, c'est les territoires qui sont déjà extrêmes qui sont eux-mêmes le plus impactés très rapidement par ce changement climatique. Et notamment en Guyane, par des régimes de pluie qui se dérégulent très fortement et donc une inondabilité du territoire qui est de plus en plus forte. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même une question fondamentale qui se pose et qu'on nous pose là-bas, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est comment fabriquer de la ville avec ce changement climatique, avec ces risques finalement, et comment voir ces territoires de risque non plus comme des zones où on tourne le dos à ces zones, mais vraiment comme on essaye d'intégrer un programme des usages de l'espace public, de la nature, des parcs, etc., sur ces zones à risque, et comment, là aussi, peut-être qu'on a une petite, finalement, parenthèse au XXe siècle, on a un peu tourné le dos à l'histoire, mais pendant très longtemps, l'habitat, la ville, s'adaptait très bien aux risques. Juste un exemple, mais c'est quand même un peu marrant, c'est que hier j'étais interviewé par une personne de l'ESSEC qui travaille sur la question de l'inondabilité, et donc du coup ils font tout un atelier sur l'inondabilité. J'étais interrogé par rapport à plusieurs projets qu'on porte sur cette question hydraulique, qui a aussi une forte dimension à l'agence, et quelles sont les innovations urbaines, techniques, technologiques qu'on met par rapport à cette question d'inondation. Et finalement je dis, en fait, il n'y a pas d'innovation. En vrai, technique, c'est quoi l'innovation technique ? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire de travailler en zone inondable ? On fait du pilotis. Mmh. Vous regardez les villages.
Dès que vous avez prononcé.
Voilà, amérindiens il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se mettaient sur pilotis. Donc, c'est intéressant. C'est comment on essaye de revenir. Alors, évidemment, après, il y a pas mal de questions qui se posent parce que c'est pas tout à fait la même densité de population, pas tout à fait le même aménagement. Mais du coup, il y a vraiment cette notion de profiter, travailler un territoire à risque et vivre avec le risque. Puisqu'il y a quand même cette question-là, c'est que je pense qu'on ne peut pas... Moi, enfin, c'est un peu ma position personnelle, mais je pense que c'est une position aussi urbaine, c'est-à-dire le changement climatique, il va falloir qu'on s'adapte au risque. On ne va pas pouvoir toujours tourner le dos à ce risque. Mais ce n'est pas facile, par exemple, culturellement, pour participer à beaucoup de discussions avec les habitants, d'interventions, etc., de penser, en tant qu'habitant, d'être exposé en fait, au risque d'inondation, de se dire « Ah oui, bah alors mon parking il va peut-être être inondé, mon cheminement il va peut-être être inondé. » Tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments, mais qui, à 100 ans, ça posait des problèmes à personne. Hein. Enfin, je veux dire, en vrai, puisque pour le coup, comme il n'y a pas de typhon, vous voyez, c'est pas un risque corporel, c'est plutôt une aisance personnelle d'usage et comment réapprendre à travailler avec ça. Et c'est vrai que, notamment, on travaille beaucoup avec le ministère et je suis assez attaché à ce travail-là. Comment faire accepter aussi à la norme, au ministère, au règlement, qu'un parc dans un espace inondable, c'est peut-être pas très grave, ça se fait, ça peut être intéressant, ça peut permettre justement aux habitants de se familiariser avec ce paysage, avec ce territoire. Et donc du coup, ça c'est vraiment un élément aussi qui est important par rapport au développement de ces territoires-là et par rapport à cette question du changement climatique.
Est-ce que vous vouliez revenir un peu sur votre équipe ou...
Peut-être sur l'équipe, un petit mot quand même, ce qui est important, c'est vraiment cette question de transmission. Je reviens un peu dessus, mais c'est vrai qu'il y avait les fondateurs. Et,
vous pensez déjà à vos propres successeurs,
exactement.
Alors vous êtes en pleine activité,
oui,
et c'est vous qui tenez le...
On a un véritable objectif, si vous voulez, qui est que il y avait les fondateurs, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui ont une histoire très commune, qui ont fondé quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas les fondateurs qui nous ont choisis, ce qui se passe quand même souvent dans pas mal d'agences d'architecture, hein, quelques jeunes qui sont adoubés parce que le grand maître considère que c'est eux qui vont reprendre. Là, ce n'est pas ça, c'est un groupe qui s'est constitué volontairement, qui est venu dire, voilà, nous, ça nous intéresse. Et ce groupe, il est un petit peu polymorphe. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même âge, on ne fait pas tous le même métier, quelque part, enfin, cœur de métier, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, il y en a quelques-uns qui sont, disons, un petit peu plus âgés. Et donc, du coup, on est déjà dans un état d'esprit où il y en a qui vont passer la main. Il faut qu'il y ait des gens qui arrivent. Et donc, du coup, comment créer une structure, voilà, qui soit vraiment vivante, quelque part, où il y ait toujours une espèce de mouvement, comme ça, d'associés qui... est totalement prégnant à l'agence sur cette question. Je reviens un peu sur la question du nom, etc. Ce qui est important, c'est la question des projets, la question des valeurs qu'on a évoquées juste avant. Et finalement, voilà comment ce groupe un peu vivant permet ça.
Et puis, alors j'imagine que le fait d'avoir des générations différentes, ça nourrit aussi les projets.
Bien sûr. Et puis, c'est vrai que je pense que sur... la façon de travailler, on a beaucoup évolué. Enfin, voilà, chacun porte un peu sa génération, ses rapports. On a à l'agence beaucoup de jeunes architectes qui sont passionnés et qui ont envie aussi d'un sens différent de ce que nous, peut-être, on avait quand on avait 25 ou 26 ans et qui nous portent, nous aussi, dans nos réflexions. Et l'idée de transmission et de partage, en fait, elle existe à l'agence par la façon même dont on travaille. C'est-à-dire que il y a des petits déjeuners, par exemple, qui sont faits par certaines personnes de l'agence, des salariés, sans nous demander notre avis, qui permettent à d'autres de venir se nourrir d'une expérience ou de choses comme ça. On a les cafés du jeudi, toujours, où... soit on a un intervenant extérieur, soit on discute de projets, parce qu'on est quand même assez nombreux, et donc ça permet de rentrer un peu plus dans le détail, que chacun voit les questionnements qui se posent et qu'on puisse interagir. Et voilà, et notre idée, c'est vraiment d'avoir un groupe vivant, avec chacun qui prend un peu de responsabilité, et qui amène sa pierre à l'édifice, et qui peut effectivement, à un moment et bientôt, venir nous assister. C'est une grande annonce. Hein. En tant qu'associé, non, c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui de modèle préétabli.
Et juste petit complément, c'est important pour nous, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous faites partie un peu des grands agence française.
Oui, oui.
Et il y a finalement un peu cette étiquette très française où quand vous êtes une grande agence, c'est que finalement vous êtes une grosse structure, faites des gros projets avec une question de chiffre d'affaires. Moi par exemple, bon, je trouve ça très sympa le classement des agences d'architecture par chiffre d'affaires, mais en vrai... Je trouve que ça ne soit pas vraiment une grande valeur de classement.
Oui.
Et, non, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, et qu'à un moment donné, cette question de grande agence, pour nous, elle est quand même vraiment sur cette notion de groupe et sur cette notion aussi de responsabilisation. Parler des petits déjeuners qui sont organisés, c'est vrai que nous, en tant qu'associés, on est heureux de pouvoir constater qu'il y a des gens qui sont directeurs de projet ou chargés de projet, qu'organisent des petits déjeuners sur des thèmes qui les passionnent ou des présentations, des échanges. Et c'est ça qui fabrique cette vie d'agence. Alors, qui n'est pas tous les jours évidente, évidemment. Il y a une certaine méthodologie à mettre. Il y a la question un peu du temps de travail à organiser parce que pendant qu'ils font ça, ils ne sont pas sur les projets. Mais je pense que vraiment, c'est une espèce de devoir social d'organiser justement cette culture de conception en interne.
Avec ces moments de convivialité qui permettent de renforcer certainement les liens. Comment vous imaginez le monde de demain ? Alors, vous pouvez répondre par rapport à l'agence ou de manière plus globale ?
Moi, je dirais que je suis assez positive aujourd'hui sur le monde de demain. Non, je pense qu'on pourrait avoir peur. On est aujourd'hui dans un métier qui est un métier finalement décrié. On nous dit la construction, c'est ce qui pollue. Mais ok, mais c'est quand même ce qui abrite, ce qui crée le beau, la vie, ce qui fait que on se rencontre quelque part, les espaces publics. Voilà, donc en réalité... on a une responsabilité sur la façon dont on fait les choses, donc, mais aussi beaucoup sur ce qu'on amène. Moi, je dirais que ce qui me fait le plus peur après le réchauffement climatique, ou même peut-être avant, c'est le métaverse. Parce que, pas que je sois contre le métaverse en soi, mais nous, on crée la réalité. Et aujourd'hui, je pense que notre responsabilité, c'est de créer une réalité désirable. Mais nous, en tant qu'architectes, mais c'est une annonce aussi et une demande à tous nos maîtres d'ouvrage et à tous les gens qui pensent la ville et qui la financent, puisque c'est quand même très important, cette question économique, et que bientôt, on pourra, en mettant un masque, aller dans des univers géniaux, rencontrer des gens un peu en faux, mais même bientôt, je pense qu'on se verra nous-mêmes, voilà, vivre des expériences magnifiques dans un monde irréel. Et j'ai peur que la réalité ne soit pas à la hauteur de ce qu'on peut inventer sans aucune contrainte constructive, je dirais. Et je pense que c'est un des grands enjeux aujourd'hui de faire aimer nos villes, nos espaces bâtis.
De vivre dans la vraie vie.
De vivre dans la vraie vie, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller s'amuser et faire des combats ou quoi que ce soit, ou voyager peut-être dans le métaverse. Moi, je ne suis pas contre. Mais je me dis, si on baisse les bras aujourd'hui, si on se dit, il faut faire petit, au minimum, parce que y a des problèmes économiques, parce qu'il y a des problèmes de matériaux, parce qu'il y a tout ça, je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus inventif. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de plus en plus de réfléchir et d'essayer de trouver de nouvelles idées pour rendre notre monde désirable. Mais je suis assez positive. Je vois les jeunes et puis même notre génération d'architectes en France et dans le monde. Je pense qu'il y a une vraie combativité et une bonne envie de se frotter au métaverse. Voilà.
Intéressant.
Moi, je pense qu'il y a un grand paramètre qui est important pour moi sur la question du monde de demain, c'est qu'il est plus inconnu que ce qu'il n'y était il y a 30 ou 35 ans. Je déjeunais par exemple hier avec un des associés, je disais, mais est-ce que toi, par exemple, quand tu avais mon âge, il y a 30 ans, est-ce que tu étais dans cette posture finalement de demain inconnu ? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que, vous voyez, les années 80-90, c'était quand même, ils en parlent beaucoup, y compris sur la question de l'architecture, la position de l'architecte dans la société, le métier d'architecte, c'était des choses qui étaient codifiées, assez bien réglementé, vous faisiez des concours, vous gagniez des concours, vous fabriquiez des projets, il y avait les évolutions technologiques qui arrivaient, vous aviez la croissance qui faisait que globalement vous viviez mieux que ne vivaient vos parents, et on était dans un monde comme ça, croissant, plutôt monde de bonheur, dans ce que j'appelle une espèce d'aspiration positive et de croyance en l'éternelle croissance, bonheur, la guerre derrière nous. Et puis aujourd'hui, ce monde-là, connu, il est fini. Et donc face à cet inconnu, la posture en tout cas que moi j'essaie d'adopter, c'est plutôt de dire il faut qu'on arrive à s'adapter, il faut qu'on arrive à innover sans nier, parce que changement climatique, on ne peut pas nier, mais il faut qu'on arrive à s'adapter, qu'il faut qu'on arrive à écouter aussi, c'est-à-dire, on ne peut pas dire on s'en fiche du réchauffement climatique. Donc c'est pour ça que nous, notre devoir en tant qu'architecte, urbaniste, paysagiste, c'est de travailler avec ça, la question du recyclage, etc. Évidemment, moi, ça m'intéresse, mais je pense que c'est de notre devoir. On a l'obligation de fabriquer avec ça. Sinon, évidemment, on ne peut pas construire un monde de demain. Et le monde de demain ne pourra être finalement que meilleur en s'adaptant à cet inconnu. Et je crois, alors peut-être de façon un peu philosophique, et puis parce que, comme je suis un peu fan d'histoire aussi, on voit aussi que les grandes inventions historiques de la société humaine, elles ont été aussi inventées dans des périodes difficiles, d'équations inconnues, difficiles. Les villes qui, aujourd'hui, ont réussi une mutation urbaine intéressante sur la question de la densité, de la désirabilité, de la nature en ville, sur tous les thèmes actuels, si vous regardez bien, c'est des villes en fait, qui, il y a 30 ou 40 ans, ont connu des heures sombres et qui ont, du coup, à un moment donné, dû se positionner par rapport à ça, dire « bon, ça va pas ». On court à la catastrophe, comment on s'adapte, comment on se réinvente, comment on développe. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant, et c'est évidemment comment prendre les bons paramètres, les bons éléments pour fabriquer ce monde de demain meilleur. Après, c'est très personnel ce que je vais dire, mais j'ai des enfants, je ne peux pas me dire que je ne vais pas essayer de tout faire pour ne pas fabriquer un monde meilleur que ce que je vis aujourd'hui.
Mais bien sûr. Voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
Quel conseil ? Lire. Non, mais être curieux. Être curieux, et puis je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver des collaborations intelligentes. Je pense que l'architecte seul n'est pas la bonne solution. Le collectif, déjà, entre architectes, peut être une solution, mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de collaboration avec d'autres entités. Voilà, nous, on travaille beaucoup avec des designers, avec des artistes, avec des sociologues, pour se nourrir. En fait, le monde est complexe. Il faut qu'on trouve des solutions. Voilà, se poser des questions, être curieux et pas avoir peur de travailler parce que c'est un métier engageant, je dirais.
Oui, moi, je rajouterais se passionner pour son métier. On a quand même une chance inouï de faire un métier passionnant tous les jours. Moi, ce que je dis souvent aux gens qui travaillent avec nous, c'est vous prenez votre douche, vous pouvez réfléchir finalement à la question spatiale autour de vous quand vous allez dessiner la salle de bain sur un plan tout à l'heure. On sort dans la rue, on peut avoir une idée de dimension, de la question commerciale, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Voilà, c'est des sujets en tout cas qui sont très vivants. Donc du coup, voilà, il y a cette question de passion. Cette question d'engagement positif et de pousser nous, enfin un peu plus âgés, on va dire, ou encore les plus âgés, dans des retranchements aussi, pour essayer de... Nous, c'est vrai qu'on est quand même souvent bousculés par des jeunes qui ont travail et qui nous disent « Ah ouais, mais vous devriez plus vous intéresser à ça. » Je vois que les gens qui arrivent qui ont 25 ans aujourd'hui, la question climatique, c'est une angoisse qu'ils ont...
Chevillée au corps.
Chevillée au corps, ancrée. Oui. Alors que moi, elle n'est pas ancrée parce que moi, j'ai vécu 20 ans sans cette angoisse. Donc, elle arrive, elle est plus intellectuelle que corporelle. Les gens qui arrivent qui ont 25 ans, elle est corporelle. Et donc, du coup, c'est important que ceux qui sortent fassent passer le message, non pas comme quelque chose de négatif, de dire « Ah, mais on va tous mourir, machin, etc. » mais plutôt de dire « Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est notre position ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour améliorer les choses ? » Évidemment, nous, on va dire « On peut faire un peu, pas tout révolutionner en permanence, puisqu'à un moment donné, c'est complexe, mais voilà. Et donc, du coup, il y a vraiment la notion de la passion et quand même la notion de l'engagement par rapport au métier, par rapport à l'agence, par rapport à ses collègues, et par rapport à son propre futur.
Non, mais sur l'engagement, c'est vrai que on a la capacité de changer le monde.
Mmh, bien sûr.
Ou pas. Mmh. Faut choisir.
En tout cas, il y aura toujours des profils moteurs aussi, et puis d'autres oui. qui suivront. Mais l'essentiel, c'est justement de bien capter ces énergies qui peuvent entraîner dans le bon sens.
Mais dans un monde inconnu, les énergies moteurs, elles sont essentielles.
Ouais.
Et elles sont très importantes.
Un mot de la fin, peut-être, sur l'agence.
Je pense que ce qui est important, c'est effectivement sur l'agence, et ce qu'on a un peu voulu expliquer, il y a évidemment la question du collectif, mais il y a la question de la méthodologie, vous en avez parlé au tout début. On est des individus, donc on n'a pas une écriture architecturale, je dirais, qui est totalement linéaire. Par contre, on a une pensée vis-à-vis du projet, une méthodologie qui nous lie et qu'on partage, et c'est vraiment ça qui nous anime. Je dirais que sur la question formelle, chacun a un peu son écriture et sa volonté. Sur la question méthodologique, on est beaucoup plus... On pense le projet avant de le dessiner.
Oui, sur un petit mot de la fin, moi je reviendrai sur la question de l'engagement, mais je dirais de l'engagement des nouveaux associés que nous sommes, où historiquement, c'est vrai que les associés fondateurs se sont engagés dans l'agence, mais aussi à l'extérieur, à l'ordre, sur les conférences, architectes conseils, profs, Val-de-Seine, etc. Et qu'aujourd'hui, après un petit temps, normal en tant que nouvelle association, on est quand même très concentré finalement sur la question de la transmission, réorganisation d'agence, méthodologie, projet, conception. L'or est à l'ordre. Il y a la question de l'enseignement. Et donc, du coup, je pense que s'il y a un des objectifs, notamment par rapport aux nouveaux associés que nous sommes, c'est justement s'engager aussi ailleurs pour cette profession, pour ce métier, on va dire, un petit peu ensemblier, à travers, évidemment, des engagements autres que la constitution d'agence. Et c'est là où c'est fondamentalement intéressant, parce qu'on ne peut faire ça que si, derrière, il y a des gens plus jeunes qui s'engagent, eux, justement, dans l'agence, un peu comme nous, il y a 10 ans, en disant, on se concentre un petit peu sur comment on fait l'agence, on organise, on fait de la conception, etc. etc. Et c'est là où, une espèce de travail un petit peu collectif, où chacun prend sa place en fonction du temps, je dis du temps à l'échelle de son temps de vie, c'est très important pour nous.
Bien, merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous pour votre riche témoignage. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et d'ici là, n'oubliez pas le format court en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.